Vous écoutez, on lit pour vous.
Les femmes derrière six inventions révolutionnaires. Un texte commandité paru le 26 mai 2025 dans la presse. Les innovations qui marquent l'histoire ne sont pas toutes nées dans les ateliers de génies excentriques en sarrau blanc. Tout au long de l'histoire, des femmes ont fait face à des défis à surmonter, à des problèmes à résoudre et à des façons d'enrichir le quotidien de tous les humains. Voici quelques-unes de leurs contributions qui méritent d'être soulignées. Environ 4000 ans avant l'ère commune, la bière. Des milliers d'années avant l'apparition des brasseries sportives, le savoir-faire brassicole est l'affaire des anciennes prêtresses sumériennes en Mésopotamie. Leur pratique sacrée, honorant Ninkasi, déesse de la bière, sont surtout transmises d'une génération à l'autre dans les temples. Le fruit de leur travail sert à la fois lors de rites religieux et pour la consommation de tous les jours. D'ailleurs, de nombreuses tavernes de cette époque appartiennent à des femmes. En élaborant les techniques de fermentation dans des pots d'argile et des recettes à base d'orge, ces premières brasseuses ont établi les fondements de l'alcool le plus populaire au monde. 1813. Scie circulaire. Membre de la communauté chrétienne des Shakers de Harvard, au Massachusetts, Tabitha Babbitt observe deux hommes manipuler une longue scie de bûcheron. Elle remarque que l'outil ne coupe que lors du mouvement de traction. Il existe sûrement une solution plus efficace. S'inspirant de sa roue affilée, Tabitha conçoit une lame circulaire pouvant couper de façon continue. Sa foi lui interdit de breveter son invention à son nom personnel, mais des séries locales n'ont pas tardé à adopter son invention révolutionnaire. 1843. Programmation informatique. Fille d'un baron et poète britannique, la jeune Ada Lovelace s'intéresse plutôt à la logique et aux mathématiques, à l'image de sa mère. Son esprit s'enflamme lorsqu'elle rencontre l'ingénieur Charles Babbage et sa vision d'une machine analytique, une calculatrice mécanique programmable. En traduisant un article théorique sur ce qui est considéré aujourd'hui comme un ancêtre de l'ordinateur, Ada y ajoute ses propres observations en bas de page, dont un algorithme et l'intuition que cette machine pourrait traiter autre chose que des chiffres, comme des lettres et de la musique. Cette révélation marque la genèse des sciences de l'informatique. 1886, lave-vaisselle. À l'époque victorienne, il est plutôt surprenant qu'une dame de la haute société, comme Josephine Cochrane, s'intéresse à la mécanique. Exaspérée de voir ses domestiques endommager sa porcelaine des grandes occasions, elle s'enferme dans son atelier pour trouver une solution. Elle conçoit une machine à manivelle qui asperge d'eau savonneuse les couverts maintenus fermement en place dans des étagères grillagées. Son lave-vaisselle est breveté en 1886, puis séduit le monde de l'hôtellerie à l'Exposition universelle de 1893 à Chicago. 1903, essuie-glace. La propriétaire d'un ranch en Alabama, Mary Anderson, est fascinée lors de sa première visite à New York. Elle observe les conducteurs de tramway qui affrontent péniblement la tempête hivernale en déblayant la neige du pare-brise avec leurs bras pour voir devant eux. À son retour à la maison, elle esquisse une lame de caoutchouc munie d'un ressort qui pourrait être activé à même l'habitacle. Elle fait breveter son invention, mais personne ne s'y intéresse, la jugeant inutile ou distrayante à une époque où peu de voitures circulent sur les routes. Ce n'est que longtemps après son décès que l'industrie automobile reconnaît son génie et fait de l'essuie-glace un équipement de série. 1991, isolement des cellules souches. La microbiologiste Dr. Ann Tsukamoto est une pionnière de la médecine régénérative. En collaboration avec son mari et ses collègues, elle développe une méthode permettant d'isoler les cellules souches hématopoïétiques chez les humains. Ces cellules rares, situées dans la moelle osseuse, peuvent réparer les systèmes sanguins et immunitaires. Sa découverte révolutionnaire a ouvert la voie au traitement de la leucémie et d'autres maladies du sang, à des greffes de moelle osseuse plus durables et à de nombreuses thérapies modernes. C'était « Les femmes derrière six inventions révolutionnaires », un texte commandité paru le 26 mai 2025 dans La Presse.
La retraite incertaine de la génération X, un texte de Stéphane Desjardins paru le 15 mai 2025 dans Virage. La génération X approche de la retraite. Ses membres auront-ils les moyens de maintenir leur niveau de vie une fois arrivés à cet âge? Rien n'est moins sûr. Survol. La génération X est parfois qualifiée d'oubliée, voire de sacrifiée. Pourquoi? Parce qu'elle a dû faire face à l'une des récessions les plus sévères de l'après-guerre dès son entrée sur le marché du travail, dans les années 1980. Inflation, chômage à la hausse, taux d'intérêt élevés. Et la récession des années 1990 n'a pas facilité les choses. Les conséquences sont lourdes. Dans les années 2000, les X se retrouvaient souvent dans des emplois moins bien rémunérés, avec des conditions de travail inférieures à celles des baby boomers. Pierre Fortin, économiste, souligne qu'ils ont été les derniers à profiter de la reprise économique. À cela s'ajoutent des facteurs comme la mondialisation, l'essor des nouvelles technologies, la diminution des services sociaux et la disparition de nombreux régimes de retraite privés, créant ainsi un environnement économique instable et précaire. Résultat, la génération X a épargné beaucoup moins que les précédentes et a vécu dans une plus grande insécurité financière. Selon le magazine Fortune, leurs conditions de vie sont moins favorables que celles de leurs parents et grands-parents. Surconsommation et endettement. Dans une société d'hyperconsommation, la situation n'a fait qu'empirer. Lorsque la génération X a commencé à rattraper son retard financier et professionnel, elle avait aussi les responsabilités de jeunes parents. Aujourd'hui, bon nombre de X se retrouvent à la pré-retraite avec de lourdes dettes et un patrimoine limité. En 2019, le ratio dette-revenu des X était de 220%, ce qui signifie que les ménages devaient 2,20$ pour chaque dollar de revenu disponible, contre 165% pour les boomers. Toujours en 2019, les X avaient les dépenses de consommation les plus élevées, soit en moyenne 100 000$. Cela les rend particulièrement vulnérables en cas de perte d'emploi. Les X ont aussi de moins bons salaires que les millénarios, personnes nées entre les années 1980 et 1990. En 1999, le revenu médian après impôt des X était de 51 000$, contre 66 500$ pour les Y en 2016, selon Statistique Canada. Un espoir timide, la préparation à la retraite. Malgré tout, la génération X semble un peu mieux préparée que les baby boomers pour la retraite, selon une étude de la firme Vanguard de 2023. Le patrimoine moyen des X, combinant placement et biens après déduction des dettes, a atteint 1,35 million de dollars en 2022, soit une hausse de 255% en 10 ans. Ce chiffre dépasse de 100 000$ celui des boomers. En 2024, la valeur nette totale des X dépassait 6,51 trillions de dollars, 1,5 million de dollars par ménage, comparativement à 6,61 trillions pour la génération précédente. Malgré ces chiffres encourageants, la réalité reste préoccupante. Environ 28 % des X n'ont pas épargné pour leur retraite et 56 % envisagent de la repousser. De plus, 46 % des X ont encore une hypothèque. Une étude de Natixis Investment révèle que 6X sur 10 estiment qu'il faudra un miracle pour leur assurer une retraite sécuritaire. Une enquête de Schroeder indique même que 53 % des X aux États-Unis devront continuer à travailler pendant leur retraite pour joindre les deux bouts. Retarder sa retraite, mais à quel prix? Si tu travailles 2 ans de plus sans réduire ton train de vie, ça n'arrange rien, commente Bertrand Rainville, conseiller au Centre d'intervention budgétaire et sociale de la Mauricie. Mais certains membres de la génération X ne peuvent pas repousser leur retraite. Épuisés par les années de travail, ils sont souvent à bout de force. L'idéal est d'arriver à la retraite sans dette ni hypothèque. Toutefois, chaque semaine, M. Rainville rencontre des personnes pré-retraitées ayant encore des marges de crédit hypothécaires et des cartes de crédit remplies. Il faut changer ses comportements pour diminuer les dettes et augmenter l'épargne, conseille-t-il. À 60 ans, il est encore possible d'agir, mais il ne faut pas se culpabiliser, précise M. Rainville. Pour repartir sur de bonnes bases, une rencontre avec un conseiller pour établir un budget est essentielle. Cependant, pour qu'une stratégie soit réellement efficace, plusieurs séances s'échelonnant sur plusieurs mois sont nécessaires. La réalité est donc claire. Des millions de membres de la génération X n'auront d'autre choix que de repousser leur retraite de plusieurs années, voire de travailler à temps partiel bien après avoir dit « bye-bye, boss ». C'était « La retraite incertaine de la génération X », un texte de Stéphane Desjardins, paru le 15 mai 2025 dans Virage.
Robots relationnels. Un texte de Nathalie Platt, paru le 16 juin 2025 dans Le Devoir. Ça y est, il est débarqué dans la clinique, l'ami Chat. Il entre doucement par différentes portes, mais une chose me frappe déjà. Malgré tout le grand bruit qu'on en fait depuis si longtemps, il réussit à s'immiscer, de manière subtile, dans le cœur des gens. Cette séduction, précisément, est bien ce qui pourrait nous inquiéter le plus, puisque c'est ainsi que s'installent en nous les grandes habitudes desquelles on ne se méfie plus, par le sentiment. Et c'est évidemment par ce grand espace laissé béant par nos sociétés individualistes, où le bien commun est devenu morcelé en cellules éparses, non reliées entre elles, que l'aptitude relationnelle de l'ami chat arrive, telle une pluie dans un désert de solitude. En plus de nous narcissiser en nous caressant l'ego comme le miroir de la belle-mère de Blanche-Neige, Chat, qui nous trouve toujours si brillantissime avec nos questions, construit à chacun de nos échanges avec lui une représentation de plus en plus complexe de nos désirs, de nos inclinaisons, de nos blessures et autres espoirs auxquels on s'accroche pour traverser notre existence. Il sait quoi nous dire pour nous rassurer, tout en nourrissant l'illusion de l'information juste. Il finit par s'adresser à notre intime mieux encore que bien des personnes dans notre entourage, parce qu'il prend le temps de nous écouter, lui, dans nos nuances, dans ce qui ne se résume pas toujours bien en une seule phrase autour d'un café, quand cet ami qu'on n'a pas vu depuis des mois nous demande « Comment ça va ?» Il coûte moins cher qu'un psy et se montre beaucoup moins faillible que cet être assis sur ce fauteuil devant nous et qui, une fois de temps en temps, ou souvent, c'est selon, laisse tomber un peu de lui-même dans le lien, excédant son rôle, sa prétendue objectivité. Chat a prodigué des conseils cette semaine à plusieurs de mes patients et il a aussi commencé à s'immiscer dans les relations qu'ils entretiennent avec leurs proches en confirmant des impressions diagnostiques ou encore en étayant ce qui confirmait leur vision sur l'autre, ce qui procure, on le comprend, tant de soulagement. On avait déjà remarqué cet usage du psy, parfois, dans des conversations où le typique « ma psy m'a dit que tu étais narcissique » pouvait surgir, franchement ou plus subtilement, au moment où la fonction première du thérapeute devenait instrumentalisée dans le tribunal relationnel où la projection est maîtresse. Or, si la thérapie pouvait se résumer en une seule phrase, il se pourrait bien que celle-ci, paradoxalement, implique précisément le mouvement inverse, c'est-à-dire celui qui implique de récupérer la projection afin de réaliser combien nous accolons aux gens qui nous entourent les théâtres relationnels qui nous habitent depuis l'enfance. Se rendre compte que nous donnons rendez-vous aux autres, à peu près toujours aux mêmes endroits, de manière plus ou moins consciente, convient ainsi régulièrement les mêmes plaisirs et déplaisirs, est le chemin tortueux qu'une psychothérapie cherche à emprunter, une fois qu'elle aura réussi à écarter toutes les autres destinations illusoires avec lesquelles elle est souvent confondue. Devenir la meilleure version de soi-même? Non, pas ici, non. Ce n'est pas un processus d'amélioration continue, la psychothérapie, mais une plongée où il s'agira du mouvement descendant plus qu'ascendant qui impliquerait bien plus la fosse des Mariannes que l'Everest, si nous avions à lui donner une représentation imagée. Apprendre à gérer mon anxiété, mon stress, ma dépression, ma dépendance, mon enfant, mes relations, etc. Encore une fois, je répondrai qu'il ne s'agit pas d'apprendre à gérer quoi que ce soit, mais bien à saisir, avec une conscience toujours plus élargie, ce qui nous habite, ce qui nous constitue, ce qui est à la source de nos réactions. Ce faisant, il se pourrait bien, oui, que nous nous régulions mieux dans nos relations. C'est bien ce qui rend la psychothérapie unique, difficile à standardiser et bien différente de ce que n'importe quelle intelligence artificielle, aussi relationnelle soit-elle, pourra offrir. Mais la tendance est bien là, et je ne crois plus qu'il soit question de penser à comment arrêter un train qui fonce déjà à toute vitesse dans le grand progrès, mais bien de trouver les petits lieux de résistance qui nous permettraient de composer mieux avec ces avancées qui continueront à concerner de plus en plus de sphères de notre vie. Si le train de l'intelligence artificielle paralyse bien des gens, il risque seulement de nous laisser sur le quai si nous ne réfléchissons pas aux meilleures manières de le penser, de l'encadrer, de légiférer son utilisation, collectivement d'abord. Puis, dans le domaine qui est le nôtre, chacun, que ce soit l'enseignement, l'écriture, le théâtre, la psychologie ou autre, il me semble aussi que cette avancée nous pousse à réfléchir à ce qui nous distingue, humains porteurs de savoir ou de relations, de cette forme d'intelligence qui est offerte au monde. Plus que jamais, alors, l'humain doit cesser de penser le soin, notamment comme le ferait un robot, parce qu'il ne sera jamais un aussi bon robot qu'un vrai robot. La standardisation des soins et tout son appareillage langagier comportant les normes, l'effacement des singularités et tout ce qui emprunte à la logique industrielle sera rapidement dépassé par l'intelligence artificielle, on peut le penser. Mais alors, que restera-t-il de nous, les soignants et soignés, si ce n'est ce petit pas de côté qui nous rend, chacun, impossible à totaliser, à réduire, à absorber sous une étiquette, qu'elle soit celle du rôle professionnel ou de la maladie traitée? Si un psychiatre et son patient, par exemple, sont toujours tellement plus que cela dans un bureau où ils se rencontrent, n'est-ce pas cet excédent qui devient le matériau premier constitutif du territoire de la résistance à l'intelligence artificielle? Si ce à quoi nous avons presque fait la guerre dans les dernières années, avec nos visions professionnalisantes de tout un tas de dispositions éthiques non standardisables, devenait précisément ce qu'il nous faudrait chérir désormais, valoriser, réparer dans nos discours sur les soins? Parce que soigner implique la faculté d'aimer, surtout, comme le dit la psychiatre Wanessa Yunsi. Il se pourrait bien que la meilleure manière de survivre en tant qu'humain face à l'emballement technologique actuel soit de réapprendre à aimer, d'une manière qui est la nôtre, qui est singulière et qui excédera toujours notre seul rôle professionnel. Je pense que ce qui a aidé l'autre dans ma pratique a toujours bien moins concerné mes connaissances et mes techniques que ma capacité à aimer. Celle-ci, évidemment, provient elle-même de ma propre faille, de ce qui a été blessé en moi, de ce qui dysfonctionne. J'aime comme j'aurais aimé être aimé. Je soigne comme j'aurais aimé être soigné, avec entêtement, radicalité et authenticité. Et c'est ma manière à moi qui diffère forcément de celle de mon collègue, de ma collègue, de tel médecin ou de tel psychiatre. Et c'est cette subjectivité profonde qui me démarque de l'ami ChatGPT et qui, de ce fait, me la rend bien moins menaçant. Assumer notre faillibilité, l'encadrer avec une éducation ancrée dans le développement d'une littératie éthique où tout est toujours du cas par cas, voilà pour moi la voie à suivre pour mieux marcher avec l'ami chat dans mon bureau comme ailleurs. C'était « Robot relationnel », un texte de Nathalie Platt, paru le 16 juin 2025 dans Le Devoir.
Rendre leur grandeur au lave-vaisselle. Un texte de Hiroko Tabuchi du New York Times, paru le 21 mai 2025 dans La Presse. Donald Trump se plaint que les toilettes actuelles l'obligent à tirer la chasse 10 ou 15 fois. Il affirme que le jet réduit des douches modernes l'oblige à y rester 5 fois plus longtemps, ce qui le gêne quand il sculpte ses cheveux parfaits. Selon lui, les ampoules d'ailes lui donnent un teint orange. Le président aborde la plomberie et les électroménagers modernes, rendus mauvais, selon lui, par la réglementation limitant la consommation d'électricité et d'eau. Cette aversion va avoir des conséquences considérables. Ces droits de douane secouent l'économie mondiale, mais le président Trump a pris le temps de signer un décret visant à maintenir une pression acceptable dans les pommeaux de douche. Il a ordonné au département de l'énergie d'abroger ou d'atténuer les normes d'efficacité des robinets, douches, baignoires, toilettes, machines à laver et autres commodités domestiques. Lundi, le département de l'énergie a donc annoncé qu'il entamait l'abrogation de nombreuses normes, ajoutant les déshumidificateurs, les micro-ondes et d'autres appareils à cette longue liste. L'administration Trump veut aussi supprimer Energy Star, la populaire certification d'efficacité énergétique des lave-vaisselles, réfrigérateurs, sécheuses et autres électroménagers. Des abrogations illégales et coûteuses. Selon les experts, bon nombre de ces abrogations seraient illégales car elles violeraient une disposition anti-recul figurant dans les lois sous-jacentes. Des experts soulignent aussi qu'elles seraient coûteuses pour les consommateurs. Les scientifiques du gouvernement estiment que les normes d'efficacité énergétique et hydrique leur ont fait économiser en moyenne 576 $ en électricité en 2024, tout en réduisant la consommation d'énergie du pays de 6,5% et la consommation publique d'eau de 12%. Selon Andrew Delasky, directeur de l'Appliance Standards Awareness Project, une coalition de groupes environnementaux et de consommateurs, de services publics et d'agences gouvernementales, les réserves d'eau déjà mises à mal dans plusieurs régions du pays seraient encore plus sollicitées dans ces règles. Citation : On vise à démanteler un incroyable succès américain. Fin de citation, dit-il. Sollicité, ni le département de l'énergie ni la Maison-Blanche n'ont souhaité s'exprimer. Des lois vieilles de plusieurs décennies. On trouve dans les énoncés de politique de la Maison-Blanche l'intention de faire abroger ou modifier la loi sur la politique énergétique de 1992 et d'autres lois qui forment la base de la réglementation fédérale sur l'efficacité énergétique. Depuis longtemps, des groupes libertaires et partisans du libre marché dénonçaient ces normes comme une intrusion flagrante de l'État dans la vie des citoyens et une atteinte à leur liberté de choix. À cela s'ajoute la nostalgie d'un passé plus simple où les électroménagers duraient longtemps et où les douches coulaient à volonté avant la réglementation environnementale. M. Trump répond à ce mouvement et les groupes qui promeuvent le libre marché l'appuient. Ces normes, citation, ont rendu les électroménagers plus lents et moins efficaces, ce qui frustre les consommateurs et limite leur choix. Fin de citation, a déclaré Devin Watkins, avocat au Competitive Enterprise Institute, un groupe de réflexion de droite qui vient de demander au département de l'énergie de créer une nouvelle catégorie de lave-vaisselle plus rapide et plus gourmand en eau. L'industrie de l'électroménager est plus mesurée. Selon l'Association of Home Appliance Manufacturers, qui représente 150 fabricants produisant 95 % des électroménagers vendus aux États-Unis, les normes, citation, contribuent à améliorer l'efficacité des appareils depuis des décennies. Fin de citation. Mais le groupe ajoute que, citation, la plupart des appareils fonctionnant à leur rendement maximal, il est peu probable que certains produits puissent réaliser des économies supplémentaires significatives, fin de citation, sans perte de performance. La liberté de tirer la chasse. Le débat sur les électroménagers remonte à l'époque du président Ronald Reagan. Il a opposé son veto à un projet de loi qui aurait établi des normes énergétiques pour les électroménagers. Un, citation, empiètement indu sur le libre marché, fin de citation, et une, citation, limite à la liberté de choix, fin de citation. Mais grâce à un fort soutien bipartite et à une opinion publique préoccupée par la conservation de l'eau et de l'énergie, une version de la loi a été adoptée en 1987. C'est un autre républicain, George H. Bush, qui a signé le premier projet de loi fixant des débits maximums pour les toilettes, les pommeaux de douche et les robinets. On a alors vu des consommateurs mécontents, qui se plaignaient que leurs toilettes se bouchaient, se rendre au Canada pour acheter des toilettes plus généreuses. Parenthèse, les règles ont ensuite été harmonisées entre les deux pays. Fin de parenthèse. Mais des décennies d'innovation ont pour l'essentiel réglé ces problèmes, et le discours critiquant la mauvaise performance de la plomberie moderne est généralement exagéré, dit Ashlyn Stilwell, professeure de génie civil et environnemental à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign. Ses recherches indiquent que l'énergie et l'eau économisées grâce à des produits plus efficaces ont un impact très positif durant leur durée de vie. Cela explique en partie pourquoi la consommation totale d'énergie et d'eau des ménages américains a augmenté moins vite que la population, souligne-t-elle. Citation, « Ça semble insignifiant à l'échelle individuelle, mais ça a fait bouger les choses. » Fin de citation. C'était « Rendre leur grandeur au lave-vaisselle », un texte de Hiroko Tabuchi du New York Times, paru le 21 mai 2025 dans La Presse.